Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Invité du jour, Loreto Gagliardi. Bonjour Loreto.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut faire dans le bonjour président?
Non, pas du tout.
Bah, je me l'étais promis Loreto quand même.
non, ça va aller.
On va rester avec Loreto. Oui. Ok, Loreto Gagliardi, nouveau président du district des Landes de football. Tu as vu Loreto, on t'en remercie encore à nouveau. L'occasion d'annoncer cette candidature en exclusivité sur nos ondes. Au final, seul candidat, Loreto, bon, ça avait été un petit peu décalé avec la crise du Covid, voilà.
Oui, c'est ça. Ça a été une élection un peu particulière, repoussée du 9 juin au 12 septembre. Et après avoir salué les auditeurs de MDM, je voudrais également remercier donc tous les dirigeants de clubs qui ont voté pour la liste que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire et qui a été élue effectivement une très large majorité.
Avec un petit coucou et le Rafale qui décolle à côté de chez nous pour venir te saluer, Loreto.
Oui, c'est gentil.
À Claude Auger qui a œuvré de nombreuses années avant toi et tu viens te mettre un petit peu dans la foulée, dans la lignée de l'action de Claude.
Oui, c'est ça. C'est Claude que je salue, qui nous écoute peut-être et qui a été un président à la fois clairvoyant et bienveillant pour tous les footballeurs landais.
Le rythme s'est accéléré, mon cher Loreto, depuis ton élection à la présidence par rapport à ton emploi du temps.
Oui, alors bien entendu, on va sans doute en reparler, mais on n'a pas eu le temps d'apprécier, j'allais dire, puisque nous sommes confrontés à la crise Covid qui frappe nos clubs et notre activité de plein fouet. Donc, effectivement, aujourd'hui, au-delà de l'envie que nous avons de faire repartir l'activité football, c'est aussi de suivre de très près nos clubs qui sont en grande difficulté de par les décisions qu'ils ont à subir, effectivement.
Alors, quel est le décor, Loreto, avec les petites dernières informations que tu pourrais nous amener sur l'univers footballistique, sportif en général, mais footballistique en particulier, sur ces difficultés, évidemment, de ces clubs de notre département?
Oui, alors, les difficultés, on les a anticipées, j'allais dire. On savait que la rentrée serait compliquée. On n'imaginait pas qu'elle serait aussi compliquée. D'autant plus que le département vient de passer en zone d'alerte. Et donc, Madame la préfète, vendredi, a décidé de la fermeture des vestiaires, ce qui pose un vrai problème de fonctionnement dans nos clubs. Mais aussi la fermeture des vestiaires, l'interdiction des balles, des lotos, de toutes les manifestations qui ont un rapport financier pour nos clubs. Et là, aujourd'hui, nous sommes véritablement inquiets, à la fois pour la pratique, mais aussi pour le devenir des clubs, pour le financement des clubs.
Alors, il y a eu quelques réunions, je crois, en ce début de semaine, avec des réunions du conseil d'administration,
oui, c'est ça? Oui, nous avons déjà réuni les présidents de clubs samedi matin en visioconférence, puis nous avons réuni une première fois le nouveau conseil d'administration pour entériner les décisions, mais je veux dire que nous sommes obligés aujourd'hui de naviguer à vue, au jour le jour, puisque les décisions tombent au fur et à mesure, donc on ne peut pas travailler sur du long terme. Et la plus grosse difficulté que rencontrent nos associations, c'est cette fermeture des vestiaires, que nous comprenons, bien évidemment, mais qui est extrêmement difficile à gérer, puisque on peut imaginer ce que c'est de renvoyer des équipes avec les intempéries qu'on a connues le week-end dernier et celles qui s'annoncent ce week-end, de renvoyer des équipes sans pouvoir se doucher. C'est vraiment très limite. Alors, on balance entre deux théories. L'une, ce serait de dire on arrête tout, puisqu'on ne peut pas avoir une activité régulière. Mais qui nous dit que dans 15 jours, on va repasser au vert? Personne. Mmh. Et de l'autre côté, on se dit qu'il faut absolument que le lien soit maintenu et que nos footballeurs, et notamment les plus jeunes de footballeurs qui n'ont pas encore joué, qui n'ont pas encore repris, puissent reprendre avant les vacances scolaires. Sinon, c'est une perte annoncée de licenciés. Pour vous donner une idée, de date à date, il nous manque aujourd'hui 890 licenciés, à peu près 10%. Et sur ces licenciés manquants, la grosse majorité viennent des U7, U9. C'est dire la difficulté pour les parents de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc voilà, aujourd'hui, mon travail, c'est de sécuriser l'activité et de dire aux parents, allez-y, mettez vos enfants dans les écoles de football. Il faut que les enfants, comme ils sont retournés à l'école, retournent dans les écoles de football parce que l'activité est indispensable, l'activité sportive notamment est indispensable. Nos clubs ont fait beaucoup d'efforts en termes de sécurisation, respect des consignes pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Donc je dis aux parents ce matin, allez-y, mettez vos enfants dans les structures sportives et faites du sport.
Ouais, il faut faire passer ce message-là pour dire que le protocole, il est en cours, il est respecté par tous les clubs qui ont fait, comme tu l'as dit, beaucoup d'efforts et qu'il faut aller dans, en plus dans ce sport de plein air aussi qui fait que voilà, on peut penser. Je ne sais pas comment je vais finir ma phrase, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, quoi, oui, oui, tout à fait, parce que qu'est-ce qui menace aujourd'hui nos clubs ? Tout le monde conviendra qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sur une situation qui peut virer à la vigilance renforcée dans quelques semaines si on ne fait rien. Donc il faut faire quelque chose. Il faut être solidaire de l'État et des décisions qui sont prises. En même temps, il faut se dire que les finances des clubs, aujourd'hui, sont au point mort, puisqu'ils ne peuvent plus organiser aucune manifestation rémunératrice, et qu'il faut reconnaître que les entrées payantes dans nos clubs de foot sont plutôt moyennes. C'est pas là que les clubs retirent le plus gros de leurs revenus. Donc, quel est le danger ? C'est qu'en plus, si nous arrêtons l'activité, ou que l'activité s'interrompe, les licenciés vont revenir vers les clubs en disant « remboursez-nous la licence ». Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la trésorerie des clubs ? C'est le produit de la licence, c'est uniquement le produit de la licence. Donc, je veux dire, comme je viens de dire tout à l'heure qu'il fallait que les enfants repartent au sport, il faut que les licenciés fassent confiance à leurs dirigeants. N'oublions pas que ce sont des dirigeants bénévoles qui sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de sanitaires. Chacun conviendra qu'on nous demande, par exemple, de nettoyer les vestiaires après chaque passage d'équipe. Je ne sais pas si les gens s'imaginent bien le travail pour les bénévoles. Les clubs Mont-de-Marsan ou ailleurs qui ont plusieurs dizaines d'équipes, mais comment faire pour faire un passage à chaque fois à nettoyer les vestiaires ? Ça, c'est un vrai problème. Et autant nos licenciés doivent revenir dans les clubs, mais autant nos licenciés doivent faire confiance aux bénévoles des clubs.
T'es un casse-tête un petit peu, Loretto, tout ça.
Oui, même, hein. Oui, parce que je ne veux pas être pessimiste ce matin parce qu'il faut toujours voir devant, mais je sens un peu de découragement en ce début de saison parce que les consignes sont tellement strictes qu'il n'y a plus, tu vois Jeannot, il n'y a plus cette convivialité. Alors je ne parle pas que du football, mais il n'y a plus cette convivialité qui fait la force du sport et du lien social. Je me dis, et je disais au président de club samedi, arrêter l'activité, c'est aussi priver tout un tas de personnes le dimanche d'aller voir un match de football, d'aller voir un match de basket, un match de rugby. Donc on va se couper du lien social. Et là, déjà qu'on est dans un climat anxiogène, si on ne peut pas non plus avoir de l'activité sociale, on va tout droit vers une vraie crise. Oui.
Mmh. Il y a Marie-Laure Lafargue, il y a quelques jours, qui était invitée d'Anthony, qui faisait écho alors, par rapport à Basketland. Mais au-delà de Basketland, sur le sport amateur, les clubs de basket amateur dans les Landes, le basket comme le football, ce sont deux points forts. Elle tenait exactement ce discours de l'urgence, de la difficulté et de cette importance sociétale du sport.
Oui, j'avais en début de semaine mon collègue ami Max Godemé, président du comité départemental de rugby, puisque nous sommes deux sports de plein air, donc vraiment confrontés à des difficultés liées à notre activité. Et on avait exactement le même constat, c'est qu'on est un peu démunis. On est un peu démunis face à cette crise qui frappe notre activité. Et il faut que tous ensemble, nous, à la fois on se serre les coudes, mais aussi qu'on suive particulièrement les structures que l'on sait fragiles pour pas qu'elles disparaissent. Parce que là, ça serait un vrai désastre pour l'activité sportive. Oui.
Donc, le message, c'est faites confiance aux associations sportives du football et du sport en général. Et n'hésitez pas à envoyer vos enfants les après-midi dans les écoles de foot et d'ailleurs. Quoi.
Oui, tout à fait raison. Un président de club m'a alerté avant-hier sur un groupe de parents qui est venu le rencontrer, qui lui a dit en substance « Président, si l'activité n'a pas lieu, vous nous remboursez la licence et on paiera au cas par cas. » C'est-à-dire, s'il y a de l'activité, on paye, mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est ? C'est pas possible. Il faut que le licencié fasse confiance au club. On a des mesures à respecter, on ne les a pas inventées, on respecte les mesures et on les comprend. Quand j'entends ce matin sur les ondes que le virus circule activement dans les lycées, collèges et facultés, voilà, il faut qu'on est tous bien conscients que l'activité doit être contrôlée, mais elle ne doit pas être arrêtée. C'est absolument primordial, il ne faut pas arrêter l'activité.
J'imagine, Loreto, que le message est passé par les fédérations, que vous avez des relais, comme ça, au niveau régional, au niveau national, pour essayer de faire passer le message au niveau des instances.
Oui, mais... comme tu le sais, c'est souvent, ce sont souvent les instances de proximité qui sont porteuses des messages. Un message de la fédération dans un village rural du département des Landes, franchement, ça n'aura pas trop de portée.
Bien sûr.
Nous, organes de proximité, oui, c'est à nous de faire passer les messages, c'est à nous de décider. On réfléchit avec nos collègues élus d'il y a un mois, certains me disaient lundi oula, on savait pas où est-ce qu'on mettait les pieds, mais là encore, ils sont servis pour un premier mois de mandat. Franchement, ils sont servis. Mais voilà, on réfléchit à des mesures d'accompagnement encore plus fortes. On a déjà décidé de mesures d'accompagnement sur le prix de la licence, sur le remboursement des droits d'engagement. Voilà, on réfléchit à d'autres mesures pour accompagner et soulager les finances des clubs.
Un petit peu comme dans le monde politique et sociétal, on s'est rendu compte que la proximité, comme ça le fait, comme tu le dis, d'être sur le terrain au plus près des différentes activités, c'est là où se fait la réalité de la chose.
Oui, mais je comprends quand les politiques de proximité disent « faites-nous confiance, tout ne peut pas descendre d'en haut, c'est nous ». Et nous seuls qui connaissons le mieux la politique de terrain, le département des Landes n'est pas le département de la Gironde n'est pas le département de la Creuse. Voilà, on connaît bien notre structure, on sait ce qu'il faut faire pour aider nos associations sportives. Alors il y a des messages qui descendent, c'est normal, pour les instances de proximité, mais c'est à nous de le diffuser et de le faire comprendre surtout.
Bienvenue au club des présidents de district, Loreto.
Oui.
C'est vrai que pour des gens...
Je le savoure tous les matins.
Entrée en matière. Mais on connaît aussi forcément ta passion qui a animé l'accompagnement de ce football montois, landais en général depuis des années. Tu n'as pas eu le temps de savourer, du coup.
Non. Ça a été une frustration, mais qui a vite disparu parce que... On est là, si les clubs nous ont accordé autant leur confiance, c'est en nous disant aussi « accompagnez-nous ». Donc le temps de la frustration a été vite effacé, maintenant on est au cœur de l'activité, je suis en contact permanent avec les services de la préfecture, notre centre d'hébergement a été de nouveau mis à disposition de l'État pour créer un centre d'hébergement d'urgence, donc on est vraiment au cœur du feu, j'allais dire, si on a été élu, si on s'est présenté, c'est aussi pour affronter ce genre de situation. Bien sûr que je préférerais aller dans les écoles de football, dans les clubs, sur les matchs, dans des manifestations rémunératrices pour les clubs, entre guillemets, pour les aider, les accompagner. C'est pas le cas aujourd'hui. Il faut faire le dos rond. Et je dis à mes coéquipiers, mes 20 coéquipiers, qu'ils peuvent compter sur mon engagement plein et entier pour les aider à affronter un mandat qui sera certainement pas facile.
Un point sur les partenaires, le retour du district des Landes. Est-ce que cette période à nuit, surtout ça, vous avez des fidèles qui continuent à vous soutenir dans cette période un petit peu difficile?
Oui, alors c'est une très bonne question. Je tiens d'ailleurs à les saluer, tous nos partenaires économiques et sociaux, j'allais dire, que ce soit les partenaires radio, presse écrite, etc. Nous avons aujourd'hui beaucoup de nos partenaires qui continuent à nous faire confiance, bien que l'activité pour eux aussi soit compliquée. L'activité économique, on le sait, est très compliquée. Lundi soir, j'ai signé à nouveau un renouvellement de contrat de partenariat avec le Crédit Agricole. Volkswagen va renouveler son partenariat. Campus Land a renouvelé son partenariat hier. Bon, je pense que les partenaires économiques sont là et accompagneront le football landais, oui.
Si on se projette un petit peu en imaginant, Loreto, que cette période-là finisse par passer, que dans le meilleur des cas, il y ait des projets, que tu puisses amener ce que tu voulais amener au football landais, tu étais parti sur quelle grande ligne, Loreto, dans le mandat que tu te...
Je souhaitais et je souhaite toujours contribuer à la structuration des clubs. Il faut absolument que les clubs soient pérennes et puissent vivre au-delà du départ de dirigeants historiques. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, comme hier, mais encore plus aujourd'hui, les clubs tiennent souvent sur 3, 4, 5, 5 dirigeants que l'on dit historiques. Mais c'est ce qu'il faut éviter, que les clubs disparaissent parce que des dirigeants historiques vont partir. Donc notre premier objectif, c'est de contribuer à la structuration des clubs. Après... c'est d'amener des jeunes à prendre les responsabilités dans les clubs. pour assurer justement ce remplacement des dirigeants historiques. Pour cela, nous avons toute une politique que nous avions envisagée, que l'on va mettre en place. J'ai intégré dans mon équipe plusieurs jeunes de moins de 30 ans qui vont être précisément chargés d'animer une politique de détection et de formation et de fidélisation des jeunes dirigeants. Ce sont deux axes majeurs. J'oublie pas aussi l'arbitrage qui est porté par le comité départemental, la formation des jeunes, et puis toute notre politique de représentation au niveau. Cette saison, c'est certainement la saison où on est le mieux représenté depuis bien des années dans les niveaux nationaux et régionaux. Et on peut même pas en profiter, mais par contre, nous devons travailler avec le Stade Montois, avec Tartas Saint-Tiagen, avec Saint-Paul Sport, avec tous ces clubs qui flirtent ou qui sont déjà dans des compétitions nationales, pour qu'on continue à rayonner et que le football soit toujours porteur auprès des partenaires.
Ah oui, parce que les compétitions, elles ont évidemment redébuté pour le Stade Montois. Ça fait un petit moment déjà, ça a été les premiers à mi-août là, à retrouver le championnat national 2. Tartas Saint-Tiagen en Coupe de France, ça l'a pas fait. Mais alors, pour le reste, en championnat, c'est un début de saison splendide. Et c'est vrai que c'est un petit peu tout ça perturbé par ces reports, parce que ça arrive aussi dans le football, évidemment, qu'il y ait des matchs reportés. Il y a, comme tu le dis, un joli contexte, un joli décor cette année. Et nos clubs landais, ils sont au rendez-vous, quoi.
Oui. Oui, même si c'est un peu difficile pour le Stade Montois, mais on le savait.
Oui, ça,
on le savait. Le Stade Montois a courageusement accepté de monter en National 2, bien que le budget ne permette pas de faire des miracles. Et je tiens à féliciter les dirigeants du Stade Montois parce que c'est une décision courageuse. Et tout le groupe première du Stade Montois a tout le soutien des dirigeants du football landais. Ça ne sera pas une saison facile, mais bravo au Stade Montois d'avoir accepté cette montée.
Pour l'anecdote, j'étais voir le FC Nantes, là, quand Pierre Aristoy est revenu sur le banc des visiteurs, ils auraient pu gagner, ça s'est joué un peu. Ils font souvent, d'ailleurs, je crois, des petites erreurs défensives ou autres qui leur coûtent un but, ils se mettent dans le dur. Le dernier match contre Trélissac, j'ai que comprendre que le score de 3-0 était particulièrement lourd. Et comme il y a de la jeunesse et de la découverte et un niveau qui flirte avec le professionnalisme, j'espère que l'équipe de Mathieu Robert et Kader Hamidi m'en compte sur eux, ne lâchera pas, quoi, qu'ils restent dans cette lignée, quoi, de ce travail.
C'est ça, j'ai souvent les dirigeants du Stade Montois, il y a un des vice-présidents du Stade Montois, Gervais Viel, qui est dans l'équipe que je préside. Quand je lis les rapports ou quand je regarde les retransmissions de Fabien Badbi en direct, je vois bien qu'ils sont à deux doigts de faire basculer en leur faveur. Bon, pour le moment, ça bascule pas, mais un jour, en continuant à travailler, ça va basculer et ils vont assurer, je l'espère, je le souhaite de tout cœur pour le football landais, ils vont basculer sur le maintien et c'est tout ce qu'on souhaite pour le football landais, que le Stade Montois soit toujours en National 2.
Et Tartas Saint-Tiagen, ils flirtent avec les premières places, ça sent parce que la l'instant, c'est une belle entrée en matière. Hein.
Alors, leur président, Laurent Lesca, vient de fêter ses 50 ans. C'est un garçon qui a effectué un travail formidable. Qui aurait dit aujourd'hui, effectivement, on plaisante souvent avec Laurent Lesca en se disant quelle est la position des clubs visiteurs quand ils disent on va aller jouer à Tartas Saint-Tiagen. Franchement, quand on vient de grandes contrées ou de plus grandes. Mm-hmm. Mais bon, c'est tout l'atypique du football. Ouais. Et voilà, là, c'est l'engagement d'une famille, la famille Lesca, qui depuis une dizaine d'années maintenant a repris le club en deuxième division départementale et l'a amené aujourd'hui en National 3, c'est tout simplement formidable. Mmh. Et tout en conservant cet esprit de convivialité, de famille. C'est, par exemple, quand l'équipe se déplace, elle se déplace avec ses supporters qui sont dans le même bus. Ouais. Alors que quand on se professionnalise, entre guillemets, on fait un bus de supporters et un bus de... Non, à Tartas Saint-Tiagen, c'est tout le monde dans le même bus. Mmh. Voilà, je trouve que c'est vraiment la beauté du sport dans son côté le plus amateur et le plus convivial possible.
Et pour l'instant, la recette, elle marche. Une victoire de Niort. Il y avait 5 pros, j'ai vu d'ailleurs, à Niort dimanche dernier. Ça n'a pas empêché les hommes des bords d'Agaray de l'emporter.
Voilà.
Dans la hiérarchie à Saint-Paul Sport, donc, qui est en Régional 1, qui est le troisième club hiérarchiquement, avec là aussi des objectifs. Bon, le début de saison,
Les dirigeants du club peut-être espéraient mieux, mais bon, le contexte n'est pas facile. Le président Jacquemin et président Jacquemin et Lacoste ont constitué un groupe qui, me semble-t-il, allait a les moyens de pouvoir flirter avec les places qualificatives pour le prochain National 3. Donc faisons confiance au groupe là aussi Saint-Paulois, qui a besoin de trouver, parce qu'ils l'ont quand même renforcé, qui a besoin de trouver de la solidité et du lien. Et je suis persuadé que Saint-Paul Sport va jouer les premiers rôles dans les mois à venir.
Alors, on pourrait dresser le décor de tous ces clubs tout au long de la matinée, parce qu'on pourrait s'arrêter à Doisy, en Régional 2.
Et oui, aussi.
La réserve du Stade Montois, Dax aussi est à ce niveau, en Régional 2. Donc voilà, il y a toujours du bon boulot fait sur ces clubs.
Oui, c'est ça. C'est là aussi, c'est la récompense du travail. Qui aurait pu croire que Doisit se retrouverait dans plus petit village en Régional 2, un des plus petits villages en Régional 2. Donc c'est du bon boulot. C'est une récompense pour tous ces clubs qui depuis plusieurs années font des efforts pour pouvoir se structurer justement. Et quand on se structure bien, on est récompensé.
Tous ces clubs de régional, en passant par Saint-Sever, par la Violette à Turin, j'en passe des meilleurs. Ouais. Un petit mot sur la première division départementale, Loreto, qui a débuté.
Alors du coup, comme nous n'avons pas de descente de Régional 3 en district depuis 3 ans, du coup, ça permet à des clubs de venir, titiller la première division départementale, qui est très ouverte, puisqu'il n'y a pas forcément les meilleures équipes les cadors sont montés, et donc il y a des clubs là qui arrivent, qui pointent et qui se disent eh ben pourquoi pas nous, et ça donne un charme aussi à cette première division départementale.
Ouais, et puis ça permet de retrouver des clubs comme Broca par exemple en première division, Saint-Perdon, quoi, des renaissances,
c'est
parce que ça n'a pas toujours été le cas.
L'US
Marsan qui confirme aussi son bon début de saison. Enfin voilà, ça va être un championnat passionnant.
C'est un championnat, on peut citer aussi Saint-Vincent qui a un effectif qui peut titiller les premières places. Donc oui, ça a permis à des villages qui depuis plusieurs années n'avaient plus touché l'élite départementale, entre guillemets, élite, mais la première division départementale, d'y être. Et quand je vois, j'étais à Saint-Perdon la semaine dernière, quand je vois la fête et les spectateurs qui sont là pour soutenir leur équipe, je me dis, c'est une réussite. C'est une réussite.
En espérant, Loreto, qu'on ait la possibilité de se focaliser sur tout ça dans les semaines et les mois à venir, sur l'aspect compétitif, avec la Coupe des Landes, même si on sait qu'il y avait pas mal de manifestations qui avaient été forcément suspendu ces derniers mois.
Alors,
le tour élite.
Tu fais bien d'en parler. Alors, moi, je me dis, on ne peut pas rester 2 ans sans finale de Coupe des Landes. Je ne peux pas le concevoir. Si on ne peut pas faire autrement, mais deuxième saison sans finale de Coupe des Landes, alors qu'on sait que c'est le rendez-vous attendu par tous les footballeurs landais, c'est pas possible. Donc, avec les présidents de club, j'espère bien mettre tout en œuvre pour qu'on aille à la fois au bout des championnats, mais aussi qu'on ait la possibilité de jouer une finale de la Coupe des Landes, peu importe les conditions, mais qu'on puisse jouer une finale de Coupe des Landes en 2021.
Ouais. Et ça a déjà débuté, le premier tour de Coupe des Landes qui a déjà commencé. Voilà, ce petit point, le retour, on pourrait rester là.
Peut parler de football.
Mais oui, bien sûr, dès que le mot football est prononcé, le retour, de toute façon, le tout nouveau président du district des Landes, invité de Radio MDM. Tu sais évidemment que dès qu'il y aura du nouveau, dès que tu voudras avec l'équipe, venir relayer tout ça sur nos ondes, tu seras toujours le bienvenu, Mikasa et Soukasa, Loreto.
Merci, mais merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être accueilli sur MDM, et par toi, Jeannot, et puis toutes tes équipes qui sont présentes aussi. Il faut faire passer ces messages, et faire passer ces messages, c'est aussi par votre entremise. Rassurer, je vais terminer là-dessus, rassurer les gens, leur dire, envoyez vos enfants dans les écoles de football. Elles sont sécurisées au même titre que les écoles. Elles sont sécurisées et il faut que l'activité sportive se poursuive.
Merci Loreto.
Avec plaisir. Bonne journée.
Toujours un plaisir à Dichat.